lundi au vendredi, on en parle 8h35 sur la première.
Et à votre écoute et à nos côtés, mais à distance, deux spécialistes nous ont rejoints pour vous répondre jusqu'à 9h30. Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail et associée au cabinet Bianchi-Schwald à Genève. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous être fidèles. C'est, je crois, votre troisième guichet sur cette question. Et on vous en remercie. On vous remercie de vous rendre disponible pour nos auditrices et nos auditeurs. Et puis du côté de Neuchâtel, nous sommes en ligne avec Pascal Guillet, président de l'Association des caisses cantonales latines de chômage et directeur de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce que nous avions reçu beaucoup de questions à notre dernier guichet consacré au droit du travail, des questions auxquelles on n'avait pas pu répondre. En plus la situation évolue, change aussi de semaine en semaine. Alors nous avions Sandra qui nous écrit ceci: je suis censé travailler à 100% à partir du 15 mai. C'est un nouvel emploi, un contrat de travail dans l'hôtellerie. Si l'employeur n'arrive pas à m'occuper à 100%, puis-je bénéficier des RHT ou vais-je devoir signer un autre contrat de travail avec moins d'heures? Stéphanie Fuld. Ou alors, Pascal Guillet, c'est égal. Alors Stéphanie Fuld d'abord.
Peut-être que je me lance sur la question droit du travail pur. Alors effectivement, elle est liée par son contrat de travail. Elle peut donc s'attendre à ce stade encore à travailler à 100%. Alors c'est vrai qu'on a vu dans l'expérience que certains employeurs se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir effectivement assumer ces 100%. Et ils font ce qu'on appelle un congé modification, c'est-à-dire résilient de manière anticipée le contrat pour en donner un autre à un taux plus bas. Ce qui ne répond pas à la question des RHT, mais si effectivement elle est engagée à 100% et que l'employeur ne pourra pas effectivement honorer cet engagement, il pourra s'adresser dans les limites légales à la caisse de chômage pour obtenir les prestations si toutes les autres conditions sont évidemment remplies. Donc il y a deux voies possibles, une qui est plus confortable avec le 100% évidemment.
Pascal Guillet, vous aussi, c'est pas votre première fois dans notre guichet pour répondre aux questions de nos auditeurs concernant les RHT. Là, on parle de quelqu'un qui est dans l'hôtellerie. On a eu beaucoup de questions autour de la restauration avec des réponses pas toujours claires. Donc, on profite de votre présence. Éclairez-nous donc dans quelles conditions et comment est-ce que des employés de la restauration peuvent prétendre au RHT.
Alors, il y a
plein de cas.
Il y a une multitude de cas, chaque établissement étant un cas un petit peu particulier. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de catégories à faire. Première catégorie, les établissements qui ont vu leur nombre de tables être restreint par des mesures de distanciation. Ces établissements-là, pour autant que les personnes, que le nombre de personnes qui sont nécessaires à faire fonctionner l'établissement soit diminué, pourront bénéficier des prestations de réduction de l'horaire de travail. Ça veut dire qu'effectivement, vous aviez, on prend un exemple, 40 tables, vous en avez plus que 20, vous avez besoin malheureusement que la moitié de votre personnel, l'autre moitié pourra être en réduction de l'horaire de travail. Maintenant, si vous aviez à l'établissement de 40 tables, que les distances sont respectées, vous conservez vos 40 tables, mais que malheureusement les consommateurs ne viennent pas dans votre établissement et que vous devez réduire un petit peu le personnel pour faire le service, là également, il y a une possibilité de continuer à bénéficier de la réduction de l'horaire de travail. Par contre, où c'est un peu plus délicat, c'est les établissements qui prennent la décision de ne pas ouvrir pour des raisons économiques, jugeant qu'effectivement, je dirais, les conditions qui sont émises leur posent problème, puis qu'économiquement, ça n'est pas rentable selon eux. Là, ils font une analyse plus précise et un certain documentation de la part de l'entreprise qui permettront après à l'autorité cantonale d'accepter ou pas que l'établissement reste fermé. Et ça, c'est peut-être la difficulté principale pour ce type de situation.
0800 108 208 pour nous appeler, pour poser vos questions. Nous avons une heure pour répondre à toutes vos questions sur le droit du travail dans cette période particulière. On va prendre une autre question, c'est Isabelle qui nous écrit. Je vous laisse peut-être prendre connaissance, nous donner connaissance de son message, Johanna.
Alors, mon entreprise faisant partie de celles ayant été obligées de fermer, mes collègues et moi avons été mises au chômage technique. Mon entreprise a eu la gentillesse de nous payer le premier mois à 100%, donc de compenser les 20% de différence. En contrepartie, ils nous ont pris nos restes de vacances 2019 ainsi que nos heures supplémentaires actuelles. Est-il légal de faire ça, étant donné que mon solde de vacances et mes heures supplémentaires sont largement supérieurs aux 20% d'un mois de travail?
Stéphanie Fulde, de compenser les 20% de différence avec les heures sup et les vacances, est-ce que c'est légal?
Alors, manifestement, dans ce cas, les 20% ne correspondent pas au taux à disposition de vacances et d'heures supplémentaires. Ce qui se pose comme question, c'est est-ce qu'effectivement l'employeur peut forcer quelque part l'employé à prendre un certain nombre de vacances? Alors, c'est une question très controversée parmi les différents auteurs. Certains disent effectivement qu'il n'est pas possible de forcer dans une période comme ça les employés à prendre des vacances parce que de toute façon, ils ne peuvent pas bénéficier du bien-être climatique autour. D'autres auteurs considèrent qu'il y a une possibilité effectivement d'imposer un certain nombre de vacances à court terme, alors que normalement, ça se fait que 3 mois à l'avance. Dans le cas de cette personne, on peut se poser la question si l'employeur, effectivement, aurait pu se mettre d'accord avec ses employés sur la prise de vacances à hauteur de 20%. Mais évidemment, on ne peut pas faire un ratio 20% une journée de vacances, parce que ce n'est pas comme ça que ça se calcule. La journée de vacances a une valeur de journée entière et donc doit être compensée dans la totalité et pas seulement à une hauteur de 20%.
Alors ça, c'est la réponse pour les vacances, mais d'aller puiser dans les heures sup pour justement compenser les 20% de différence, est-ce que ça, c'est légal?
Alors, les heures supplémentaires, effectivement, elles peuvent être compensées. De par la loi, au départ, effectivement, on peut toujours compenser les heures supplémentaires. Et il était tout à fait possible d'utiliser les heures supplémentaires a priori au départ quand il y avait les employeurs avaient mis leurs employés au chômage technique. Ça a un petit peu changé effectivement avec le temps où le Conseil fédéral a effectivement renoncé à l'utilisation des heures supplémentaires. Alors, mais sur le principe en droit du travail, les heures supplémentaires peuvent être utilisées effectivement pour compenser quand un employé travaille moins au sein de l'entreprise.
Donc si Isabelle a des heures supplémentaires en plus, c'est-à-dire elle nous dit hein, les heures supplémentaires sont largement supérieures aux 20% d'un mois de travail, ça veut dire quand même elle peut conserver ses heures supplémentaires.
C'est-à-dire que c'est un ratio de 1-1. On ne peut pas dire qu'une heure supplémentaire vaut une journée, ce n'est pas ça. Le ratio doit être effectivement respecté. Mais la question, c'est plutôt de est-ce qu'on peut l'obliger à d'abord prendre ses heures supplémentaires pour quelque part réduire aussi le dommage de l'employeur qui doit supporter une charge excessive en ce moment.
Pascal Guillet.
Oui, peut-être juste sur les 20%. Effectivement, il faut qu'il y ait un accord employé-employeur dans le sens où si les heures supplémentaires permettent, le paiement de ces heures supplémentaires permettent de compenser et de verser le salaire normal, c'est tout à fait imaginable au niveau de la réduction de l'heure de travail. Certaines entreprises l'ont fait. Ça pose pas de problème. Comme l'a dit tout à l'heure madame, il faut simplement que le juste prix soit adopté. Hein, ça veut dire qu'on paye des heures supplémentaires qui équivaut aux 20% de la perte de travail, de la perte de revenus en cas de réduction de l'heure de travail. Et s'il y a beaucoup d'heures supplémentaires, ben le solde reste acquis pour le moment aux travailleurs.
Voilà, le solde ne doit pas être liquidé sous prétexte qu'on a fait un geste pour compenser les 20%.
Alors, il y a toujours la possibilité de se mettre d'accord entre employés et employeurs. Hein, si effectivement il y a un accord en disant bon, on fait un win-win dans cet élément-là, il peut toujours avoir cette possibilité entre employés et employeurs, mais il n'y a pas d'obligation du travailleur d'accepter de voir fondre ses heures supplémentaires pour compenser le 20%.
Voilà ce qu'on pouvait répondre à Isabelle. On va prendre un premier appel au 0800 108 208. Marie qui nous appelle de Chigny. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission. Écoutez, j'ai une femme de ménage et comme je suis une personne à risque, j'ai dû la licencier pendant le coronavirus. Elle était payée normalement avec et puis par chèque emploi pour tout ce qui est les autres prestations AVS, etc. Je voulais savoir, enfin moi j'ai appliqué l'échelle bernoise, même un petit peu plus. Je l'ai payée pendant un mois et un peu plus au moment où je l'ai licenciée, d'ailleurs avec son accord. Mais je voulais savoir si c'était juste. J'ai pas réussi à avoir le chômage pour savoir si elle allait vraiment toucher le chômage.
Donc si
elle travaille 2h30 par semaine chez moi.
Oui. Donc vous voulez savoir si vous avez fait tout juste. Alors on va demander
oui,
justement.
Puis, ou bien si c'est comme ça qu'il faut faire.
Oui.
Ou s'il y a d'autres moyens de faire, je ne sais pas.
Voilà, Stéphanie Fuld.
Alors effectivement, quand on licencie un employé, il faut lui payer le délai de congé. Madame a fait mention de l'échelle bernoise, qui est l'échelle qu'on applique en cas de maladie. Donc c'est pas une question de maladie. C'est vraiment un respect du délai de congé qui doit être payé à l'employé, qui au terme du délai de congé pourra s'inscrire au chômage, pour autant évidemment qu'elle remplisse les conditions, qu'elle a été déclarée, qu'elle a réussi à cotiser assez longuement avant pour pouvoir bénéficier des prestations chômage. Mais ce qui est important pour l'employeur, c'est clairement de respecter le délai de congé et de payer le salaire jusqu'au terme.
Donc elle a fait tout juste, Marie.
Alors elle a fait tout juste, pour autant qu'elle ait respecté le délai de congé.
Ouais, ouais. Voilà. Pascal Guillet.
Oui, là, il y a un élément qui est important, qui est amené par votre auditrice, c'est qu'elle est passée par un système de chèque emploi. Donc, toutes ces périodes qui ont été passées ont été comptabilisées comme des périodes de cotisation par les chèques emploi. Donc, c'est quelqu'un qui était déclaré par ce système. Mais effectivement, les autres conditions dont dépend le droit doivent être réunies, en particulier qu'il y a un minimum de 500 francs de salaire, je dirais, de gains assurés qui soit pour cette personne-là. S'il n'y a que 2 heures par semaine, on risque d'être en dessous du minimum, je dirais, du gain assuré minimum au niveau de l'assurance chômage.
Mmh. Johanna ?
On a reçu énormément de questions autour des femmes de ménage, de cet emploi si utile et particulier. Je vous lis la question et le témoignage de Delta. Ma femme de ménage a 11 employeurs dont la majorité lui a demandé de ne pas travailler pendant le confinement et par conséquent, quelques-uns ne la payent pas. J'ai constaté qu'elle n'a pas droit aux compensations pour travail réduit. Comment peut-elle faire ?
Pascal Guillet.
On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du droit du travail. Elle a un droit au salaire, au même titre que n'importe quel employeur, auprès des 11 employeurs. Parmi ces 11 employeurs, il est fort vraisemblable que la grande majorité ait pris l'option de payer cette personne conformément à son contrat de travail. Et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu entrer dans ce concept-là, mais il y a une obligation légale de payer le salaire des personnes qui sont engagées dans l'élément domestique, dans l'économie domestique. Donc là, la personne peut demander ou réclamer son salaire auprès de son employeur.
On ne va pas se cacher cette chose. On le sait, beaucoup de femmes de ménage sont employées au noir. Dans ces cas-là, est-ce qu'elles restent des employées finalement comme les autres, malgré finalement ce type d'emploi non déclaré et, on le rappelle, pas légal ?
Je laisse ma collègue déjà répondre.
Stéphanie Fuld. Stéphanie Fuld.
Oui, volontiers. Clairement, ces employés, c'est pas parce qu'elles n'ont pas un contrat de travail qui est écrit ou qu'elles ne sont pas déclarées légalement aux assurances sociales qu'elles ne sont pas considérées comme des employés. La difficulté pour ces personnes, c'est de faire valoir leurs droits, notamment de prouver le contrat, puisque comme il n'y a généralement pas la forme écrite, elles doivent avoir le courage d'aller demander à leur employeur de payer cette période, puisqu'elles sont toujours sous contrat, et le cas échéant, si l'employeur renonce ou ne le fait pas, d'aller un pas en avant et de les mettre en demeure, puis éventuellement de les attraire devant un tribunal, ce qui est difficile et qui requiert évidemment une forme de preuve, ce qui peut se faire par témoignage ou voire par personne interposée. Mais c'est clairement des employés et elles ont droit au paiement de leur salaire.
Peut-être juste un élément, si j'ose rajouter, c'est qu'effectivement, le travail au noir a aussi d'autres conséquences, en particulier en cas d'accident de la femme de ménage. Et on l'omet parfois en trouvant les avantages du travail au noir, les charges, etc. Mais de l'autre côté, en cas d'accident de la femme de ménage, l'employeur répond de tous les dommages qui auraient causé par cet accident, autant au niveau des soins que peut-être la perte de gains pour un certain nombre de mois. Donc effectivement, dans chaque canton latin, il y a un système de chèque emploi qui a été mis en place. Et c'est vrai que ça peut être quand même un immense avantage de déclarer, c'est même pas un avantage, c'est une obligation de déclarer sa femme de ménage, soit directement auprès des caisses de compensation par le système simplifié, soit auprès des chèques emploi, pour éviter les pertes aussi de couverture en cas d'accident.
Droit du travail, indemnité, chômage, RHT. On répond à toutes vos questions jusqu'à 9h30 au guichet dont on parle de ce jour. 0800 108 208, c'est le numéro que vous pouvez composer pour nous appeler. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook ou via le portail rts.ch/guichet. Et nous sommes en ligne avec une auditrice, Rida de Lausanne. Bonjour.
Oui, bonjour. Un auditrice.
Un auditeur, pardon, excusez-moi. Votre prénom m'a induit en erreur. Alors, bonjour Rida, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'ai juste une petite question pour mon fils. Lui, c'est un futur prof. Et puis, dans 2 ans, il va commencer. Et là, il est en train, ça veut dire, il remplace, quand il appelle au collège des bergères, il remplace en cas d'un prof qui est absent ou bien malade. Alors, il aimerait bien savoir et peut bénéficier de chômage partiel.
C'est des remplacements qui sont faits occasionnellement ou bien qui sont réguliers?
Ils sont presque réguliers depuis l'entrée scolaire jusqu'au confinement.
Voilà, alors on va laisser répondre qui donc? Stéphanie Fulte, par exemple?
Alors, ça dépend un petit peu du contrat, si j'ai bien compris. Il est un peu sur appel. Oui. Et il a été appelé régulièrement depuis le début de l'année scolaire. Le contrat sur appel crée, en droit du travail en tout cas, des droits analogues à tout contrat, notamment s'il concerne le minimum quelque part que l'employé peut s'attendre à être payé, notamment en cas de délai de congé. Donc si on a un employé qui est régulièrement ou même irrégulièrement appelé dans le cadre du délai de congé, on doit lui assurer à minimum en moyenne ce qu'il aurait gagné avant, pour effectivement être couvert pendant le délai de congé, pour éviter effectivement qu'il se retrouve absolument sans rien. Si je ne me trompe pas, mais c'est plutôt à mon collègue de répondre, la question des RHT s'applique également à ces cas-là.
Alors Pascal Guillet, vous confirmez?
Alors pas tout à fait. Pour les contrats sur appel, oui. Pas de souci, effectivement, mais il y a une particularité pour tout ce qui est entité publique, puisque les entités publiques sont exclues du secteur RHT. Et c'est peut-être un élément qui pose un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'institutions. Tout ce qui est collège, tout ce qui est ville, commune, canton, ne peuvent pas bénéficier de la réduction de l'horaire de travail selon les directives qui nous viennent de la Confédération.
Voilà ce qu'on pouvait.
Donc là, le collège devrait payer le salaire à cet enseignant qui n'a pas été appelé durant cette période-là, sur une moyenne qui peut être faite sur 6 à 12 mois.
Alors voilà ce qu'on pouvait répondre à Rida. Et puis nous avons aussi reçu un mail de Pascal, Johanna.
Le Conseil fédéral nous a annoncé la prolongation des indemnités chômage de 120 jours. Toutefois, le traitement est inégal selon que l'on est déjà au bout du délai cadre fixé par la caisse de chômage ou non. Apparemment, seuls ceux qui sont au bout de leur délai cadre auront droit à cette mesure. Les autres verront simplement leur quota de jours indemnisés augmenter sans pouvoir les toucher si le délai cadre dépasse cette période de 120 jours. Ce traitement est suffisamment difficile à expliquer pour brouiller les cartes et compliquer la question, mais il y a bien une inégalité de traitement. Alors peut-être Pascal Guillet, éclaircissez cette inégalité de traitement. Y a-t-il vraiment inégalité de traitement? Vous confirmez cette information?
Je dirais que l'information est juste. À un moment donné, il y a une règle qui a été fixée par le Conseil fédéral avec ses 120 indemnités journalières supplémentaires qui ont été données. Effectivement, si la personne était déjà en fin de droit avant l'introduction de cette ordonnance, elle ne peut pas en bénéficier. Si elle a été en fin de droit, par exemple, ou en fin de délai cadre en mois de février, elle ne pourrait pas en bénéficier. Par contre, si après l'ordonnance, elle arrivait en fin de délai cadre, ou en fin de droit, il y a des possibilités de toucher ces 120 indemnités journalières. Les personnes concernées ont été normalement informées par les caisses de chômage de cette possibilité supplémentaire de 120 indemnités. Et elles doivent, si elles n'étaient plus inscrites, se réinscrire au niveau des offices régionaux de placement pour qu'on puisse après payer ces prestations. Toujours dans la limite des 120 jours et de la fameuse ordonnance Covid-19 qui peut être à un moment donné, à n'importe quel moment, abrogée par le Conseil fédéral. Et c'est peut-être quelque chose qui est important à savoir. Les 120, c'est vraiment, je dirais, le temps d'attente pendant le confinement. Ça veut dire qu'effectivement, si les mesures de confinement venaient à disparaître en majorité, il n'est pas impossible que ces 120 indemnités prennent fin.
Une dernière question juste avant les infos, puisqu'on est, il nous reste une minute. Jérôme nous écrit, ayant été en arrêt de travail pour cause de Covid, l'employeur a également fait valoir la RHT sur cette période, donc 20% de moins sur la fiche salaire, sans autre compensation. Est-ce que c'est légal, des RHT sur un congé maladie?
Non.
Pascal Guillet.
Non, très clairement, les absences pour cause de maladie ne peuvent pas être mises comme heures perdues. C'est comme si on part en vacances, c'est pas des heures perdues dues à la conjoncture économique liée au Covid. Toutes les heures d'absence qui ne sont pas des heures qui auraient dû être travaillées habituellement ne peuvent pas être déclarées comme heures perdues.
Donc cet auditeur pourrait très bien demander à son employeur de réviser, de revoir sa fiche de paye.
Oui, tout à fait.
Voilà ce qu'on
tout
peut.
Tout à fait, c'est un droit au salaire, oui. à 100% pour les périodes de maladie.
Guichet spécial droit du travail avec Johanna Comange et nos deux invités, Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail, et Pascal Guillet, président de l'association des caisses cantonales latines de chômage et accessoirement directeur de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage. Et avant de poursuivre ce guichet, avant de prendre un nouvel appel, Pascal Guillet, vous vouliez rendre hommage aux employés des caisses de compensation.
Alors, des caisses de chômage, des caisses de compensation également, parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour tout ce qui est indépendant, mais aussi au niveau des collaborateurs des caisses de chômage. Parce que depuis, je dirais, mi-mars, les montagnes de demandes de RHT ont été gigantesques dans chaque canton et en particulier en Suisse romande. Et ces collaboratrices et collaborateurs des caisses de chômage ont travaillé quasi chaque week-end, chaque jour férié pour tenter d'éviter des grosses catastrophes au niveau des entreprises et de payer de la RHT. Et là, je profitais aussi pour les remercier. Il y a d'autres professions qui ont été remerciées qui ont fait fonctionner l'ensemble du système et parfois ce petit bureau au fond du couloir qui est la caisse de chômage, on ne savait pas tellement à quoi elle servait, cette fois elle est au centre du processus et c'est vrai que les masses de travail et la compétence des collaborateurs qui ont été mis en œuvre, c'est aussi quelque chose qu'il faut relever.
Voilà, le message est passé. Merci Pascal Guillet. On va prendre un nouvel appel au 0800 108 208. Je vous rappelle que c'est le numéro gratuit que vous pouvez composer pour nous joindre, mais vous pouvez aussi nous écrire via rts.ch/guichet ou notre page Facebook. Nous prenons en ligne Joël qui nous appelle de Bulle. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
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 Quelle est votre question, Joël ?
Alors, j'aimerais juste savoir si un patron de salon de coiffure a le droit de dire que des vacances qui ont été prévues pendant la période de fermeture du salon, ces vacances peuvent être considérées comme prises et que le patron n'ait pas besoin de les donner plus tard. Merci beaucoup.
Merci Joël de votre question. Stéphanie Fuld.
Alors, effectivement, les vacances qui ont été convenues entre les parties et où la date a été fixée sont considérées effectivement comme prises malgré les circonstances. Et à ce moment-là, effectivement, même si l'employé n'a pas pu en bénéficier en partant quelque part en vacances, l'accord des parties est fixé au moment où ils ont décidé communément un de demander les vacances et l'autre de l'accorder.
Maintenant, on va passer à une question que nous avons reçue par écrit. C'est la question de Florent. Mon fils a été licencié pour motif économique fin avril. Sachant qu'il était en arrêt maladie à ce moment-là et que début juillet, il doit partir à l'armée pour 3 semaines, jusqu'à quand son entreprise doit-elle le payer? Pascal Guillet, peut-être?
Ou je laisserai ma collègue non. pour le droit du travail. C'est vraiment du bon droit du travail, là, dans le cas présent.
Effectivement. Alors Stéphanie Fulde.
C'est vraiment du droit du travail. Donc, licenciement en cas de maladie, c'est pas possible. Donc, c'est une nullité du licenciement, ce qui implique que l'employé est encore et toujours sous contrat. Si le licenciement n'a pas été réitéré à un moment donné où c'est possible. Donc, si je comprends bien, cette personne est toujours employée et elle est toujours, elle devrait théoriquement, si elle est en tout cas à disposition de l'employeur, être payée.
Voilà, mais que peut-elle faire si elle ne l'est pas? C'est-à-dire, simplement
dire... Elle a été licenciée pour motif économique fin avril.
C'est un peu délicat quand même d'aller dire, écoutez, cher patron, je ne suis pas d'accord avec vous et j'exige d'être payée.
Alors, c'est effectivement ce que l'employé doit faire. Il doit dire, cher patron, j'ai été licencié alors que j'étais malade, ce licenciement est nul, donc je suis toujours employé et je vous invite à vouloir bien à me payer et je me rends disponible effectivement pour exécuter les tâches que vous voudrez bien me donner. Et à ce moment-là, il aurait effectivement, l'employé a une créance à l'égard de son employeur dans la mesure où le licenciement est effectivement sans effet et nul.
Et pour ces démarches, parce que c'est pas toujours évident de faire ces démarches quand on est employé, on ne connaît pas toujours bien les subtilités du droit, est-ce qu'on peut se faire aider par exemple des permanences juridiques, des syndicats ou autre?
Bien sûr. Alors il faut effectivement être membre d'un syndicat, mais c'est une démarche qui est relativement facile à faire. Et à ce moment-là, les syndicats vous aident à faire les démarches nécessaires auprès de votre employeur.
Merci de ces conseils. Oui, Pascal Guillet.
Si vous permettez. Oui, il y a aussi effectivement les tribunaux de prud'homme qui peuvent renseigner ces personnes sur le droit du travail quand il y a des éléments de ce type. Mais ce qui est aussi important, c'est que si la personne ne fait pas valoir son droit et qu'elle vient au niveau de l'assurance chômage s'inscrire, là, la caisse de chômage aura l'obligation de constater qu'effectivement le congé est nul, de renvoyer la personne présenter ses services auprès de l'employeur. Donc, on ne pourra pas sans autre ouvrir un droit aux prestations. Et si l'employeur venait à refuser de reprendre la personne ou de payer le salaire, la caisse a l'obligation d'appliquer ce qu'on appelle, en notre jargon un peu juridique, l'article 29 de la loi sur l'assurance chômage, c'est-à-dire que la caisse de chômage va intervenir pour cette personne, elle va se subroger dans les droits de la personne et elle va se porter également partie dans le cadre du litige qu'il y aurait avec l'employeur.
Ah oui, donc ça a des conséquences très concrètes sur les assurances sociales.
Tout à fait, parce qu'effectivement, la personne là ne restera pas seule à défendre son droit, mais la caisse de chômage devra aller défendre le délai de congé qui n'a pas été respecté dans le concept d'amoindrir le dommage pour l'assurance chômage. Donc l'assurance chômage ne va pas prendre la place de l'employeur pour payer le salaire, mais elle va se subroger et tenter de récupérer le montant auprès de l'employeur.
Bon, la solution finalement pour notre auditeur, c'est peut-être de faire écouter la partie de l'émission qui le concerne et je pense que son cas va être rapidement réglé.
Voilà, on l'espère en tout cas, on l'espère pour lui. On va prendre un autre appel, Samuel qui est en ligne avec nous de Sion. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour. Moi je me mets sous l'angle de l'employeur. Nous on a une femme de ménage qui vient deux jours par semaine, elle fait femme de ménage et nounou, elle est déclarée, ça fait plus de 2 ans qu'elle est chez nous. Comme ma femme est à risque, mars-avril, elle n'est pas venue, mais on lui a payé les heures qui étaient convenues qu'elle vienne. Maintenant, est-ce que nous, comme employeur, on peut récupérer une partie de ce qu'on lui a versé pendant cette période-là où elle n'est pas venue chez nous?
Voilà, est-ce que vous pouvez effectivement avoir droit à une compensation, Pascal Guillet?
Alors, écoutez, la question ça a été posée, je dirais, depuis le mois de mars, fin mars, au niveau du Conseil fédéral, pour la prise en charge de toutes les personnes de l'économie domestique. Et le Conseil fédéral a répondu dans une conférence de presse qu'il avait étudié la question, mais qu'il jugeait effectivement la solution trop complexe à mettre en œuvre et qu'il y renonçait. ce qui a effectivement provoqué un certain nombre de problématiques pour toutes ces personnes qui sont dans l'économie domestique, les femmes de ménage, les nounous et autres. Et là, la solution, effectivement, repose exclusivement sur l'employeur parce qu'il n'y a pas, de l'autre côté, autant au niveau des APG que de la RHT, une mise en place d'un filet social pour ces personnes, ce qu'on peut très largement regretter.
Effectivement, on regrette qu'il n'y ait pas de solution, donc c'est au cas par cas finalement.
C'est une obligation de l'employeur de payer le salaire. On aurait pu imaginer que ça devienne dans le cadre des APG, on aurait pu imaginer que ces employeurs aient droit à de la RHT, mais la décision du Conseil fédéral a été autre.
Voilà, donc pas de compensation pour répondre très clairement à Samuel qui nous appelait de Sion, 0808-208. Autre email, Johanna.
Oui, on reste toujours dans le registre des emplois à domicile avec cette question de Xavier. Dans les régions vallées où la garde d'enfants, crèche, maman de jour privée a été interdite, qui doit payer les frais de garde qui n'ont pas été fournis? Est-ce que l'État peut refuser de fournir des indemnités pour une activité qu'il a interdite? Voilà, une question embarrassante finalement pour nos deux participants à ce guichet. Stéphanie Fould, vous prenez le risque de répondre?
Je crois que je ne vais pas prendre le risque, je vais laisser ça à mon collègue.
Pascal Guillet.
On n'a pas droit à un joker là?
Jamais. Un demi-joker.
C'est effectivement un problème parce que les associations qui avaient des crèches et puis qui ont dû fermer, les associations, je dis bien, les crèches ont droit à de la RHT pour leur personnel. Oui. Ça, il faut aussi le savoir. Par contre, tout ce qui est de nouveau étatique, voire para-étatique, non, en tout cas étatique, n'ont pas eu droit à la réduction de l'horaire de travail. Mais pour une crèche qui était, entre guillemets, privée, elle a pu déposer une demande de réduction de l'horaire de travail pour tout son personnel et toucher de la réduction de l'horaire de travail.
Voilà pour la question de Xavier, qui était effectivement une question un peu piège. Mais peut-être que si quelqu'un nous écoute du canton du Valais, qui a une réponse très claire à donner à Xavier, parce que donc il nous appelait du Valais, hein, et que c'est une décision qui a été prise en Valais, eh ben pourquoi pas, vous pouvez nous appeler encore une petite dizaine de minutes, hein, le temps donc de finir ce guichet. Il est 9h17, on répond encore jusqu'à 9h30 à vos questions, donc au 0800 108 208. Et d'ailleurs à ce numéro, on va prendre un autre appel, c'est Antoinette qui nous appelle, elle, du canton de Vaud, de Sainte-Croix. Bonjour Antoinette.
Oui, bonjour monsieur. Monsieur, j'ai une question, bien sûr. Est-ce qu'un patron qui a dû fermer son magasin à cause du Covid a le droit de réduire de 2 semaines les vacances à son employé? Les vacances sont prévues en juillet et août. Est-ce qu'il a le droit, elle lui a dit, puisque c'est comme ça, je te supprime 2 semaines de vacances. Est-ce qu'il a le droit de le faire?
Alors, question à Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail.
Alors, le patron ne peut pas réduire les vacances, clairement pas. Les parties, normalement, se mettent d'accord à quel moment les vacances seront prises. Et effectivement, il y a ce qui est ordinaire, il peut y avoir une fermeture d'entreprise qui normalement permet effectivement à un patron de dire « pendant la fermeture d'entreprise, j'invite mes employés à prendre leurs vacances », mais typiquement ça c'est quelque chose qui se fait 3 mois à l'avance, mais en aucun cas l'employeur ne peut dire « ah bah pas, malheureusement j'ai dû fermer et maintenant je considère que les vacances sont prises mais que je les ai de toute façon réduites et dans ce cas-là tu n'auras pas tes vacances ». Ça c'est pas possible. En revanche l'employeur peut dire effectivement « je souhaite que tu prennes tes vacances dans cette période » et l'employé, dans une certaine mesure, doit collaborer à réduire le dommage de l'employeur en acceptant de prendre en tout cas les vacances qui sont déjà dues à ce jour. Pas les vacances futures, typiquement les vacances qui n'ont pas encore été acquises de par l'écoulement du temps. Celles-ci ne peuvent pas être imposées à l'employé actuellement.
Voilà pour Antoinette qui nous appelait de Sainte-Croix. Johanna.
Alors là, on va passer dans un tout autre registre avec le mail de Jean-Claude qui se considère comme une quantité non négligeable de commerçants, des oubliés des autorités. Il a dû donc fermer son commerce à la suite donc de l'ordonnance du Conseil fédéral. Il nous explique qu'il a cotisé toute sa vie et que finalement, il n'a pu obtenir aucune compensation. Après avoir pris du temps pour chercher, quelqu'un donc lui a expliqué tout gêné qu'effectivement il passait entre les mailles du filet en raison de son âge. En effet, j'ai 75 ans, nous dit Jean-Claude, et selon la loi, dès l'âge de 70 ans, je n'ai plus le droit d'être affilié à une caisse AVS. De ce fait, je n'ai droit à aucune indemnité. Pascal Guillet, ça se passe comme ça. Donc quand on a passé un certain âge, effectivement, on est un oublié de cette crise sanitaire et économique du Covid.
Alors, au niveau de l'assurance chômage, il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'un système exclut l'autre. Ça veut dire que quand on a le droit à l'âge normal de l'AVS, 64 et 65 ans, on ne peut pas bénéficier de prestations de chômage. Il y a une exclusion des deux systèmes. Quand on est à la retraite, on part du principe qu'effectivement c'est une retraite bien méritée, mais qu'on n'est pas encore disponible pour le marché du travail au niveau chômage. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas continuer son activité, mais elle n'aura pas droit ni à des indemnités de chômage, ni à des indemnités de réduction de l'horaire de travail, qui se situent quand même dans la loi sur l'assurance chômage.
Est-ce qu'il aurait droit, par exemple, à un prêt Covid ? Alors, il a dit qu'il a essayé. Hein, il nous a écrit, Jean-Claude, qu'il a essayé auprès du SECO, auprès de Covid Entreprise à Neuchâtel, puisque ça se passe dans le canton de Neuchâtel, département de l'économie. Est-ce qu'à son âge, on pourrait le lui refuser ?
Alors écoutez, là j'ai pas l'information sur ce critère-là. Je pense que s'il a pris contact, il a une réponse dans ce domaine-là, parce qu'il y a des conditions dans chaque type de prestation, il y a des conditions qu'on doit remplir, mais celle du prêt, je ne sais pas s'il y a une condition d'âge qui a été indiquée ou pas.
En tout cas, dans ce que j'ai lu des conditions, moi je n'ai pas vu cette exclusion, mais j'imagine aussi que ça doit dépendre du montant de l'emprunt.
Peut-être. En tout cas, il ne nous donne pas, Jean-Claude, de détails hein, sur ces demandes, si ce n'est qu'elles ont été refusées ou alors qu'il n'a pas reçu de réponse. Nous avons un autre appel au 0808-208. Nous allons tout de suite le prendre en ligne. C'est Pierre-Alain qui nous appelle de Saint-Légier. Bonjour Pierre-Alain.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour à tous. J'ai une question concernant les sociétés de musique. Par définition, les rassemblements de plus de 5 personnes ont été interdits. Donc, il n'y a plus de répétition possible. Et nous avons un problème avec les salaires des directeurs de fanfare, qui sont des personnes qui souvent ne sont pas professionnelles, mais c'est des salaires accessoires. La Société cantonale des musiques nous a encouragé à déposer une demande de RHT, ce qui a été fait. Et pratiquement toutes les sociétés de musique du canton de Vaud ont reçu un avis de non-possibilité d'adhérer au RHT. Est-ce que c'est correct ou pas? J'apparente ça un petit peu aux indépendants. Nous payons les cotisations chômage sur les salaires des directeurs et ils n'y ont pas droit. Heureusement pour les indépendants, l'autorité est en arrière. Merci.
Merci de votre question, Pierre-Alain. Alors Pascal Guillet, qu'en est-il du côté de Neuchâtel?
Oui, alors il a parfaitement raison. C'est des situations que nous avons examinées, qui ont été examinées. La caisse de chômage se base sur les décisions qui sont prises par l'autorité cantonale d'acceptation ou de refus, qui elles-mêmes prennent les directives qui leur sont données par la Confédération. Dès lors, c'est une catégorie d'associations qui n'ont pas été pris en compte dans tous les éléments de RHT, mais effectivement, c'est, je dirais, une maille du filet qui est très clairement indiquée par cette personne. Les situations que la personne vive, on l'a vécu dans d'autres associations musicales et dans d'autres cantons où les directeurs ont été exclus de la réduction de l'horaire de travail.
Donc c'est un peu comme pour les femmes de ménage, là aussi, pas de droit à une compensation.
Voilà, donc il n'y a en tout cas pas de droit au niveau de la compensation en réduction de l'horaire de travail, voire s'il y a une possibilité de prendre en considération ces activités-là par le biais de l'ordonnance sur la culture. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas de mon domaine de compétence.
C'est une autre voie, notre démarche en fait. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà, alors on a reçu aussi cette question de Christophe, parce que évidemment, avec le temps aidant, la peur des licenciements est aussi très très vive hein, chez certains employés. Christophe nous écrit: je travaille dans le domaine du transport aérien et je suis actuellement en chômage partiel, RHT à 100%. Si mon employeur devait réduire la voilure et procéder à des licenciements, est-ce que il doit respecter le délai de congé? Pendant ce délai de congé, doit-il me rétribuer à 100% ou selon le barème des RHT? Et après le licenciement, une fois au chômage, est-ce que la période passée en RHT est prise en compte pour déterminer la durée maximale de droit au chômage? Ou est-ce qu'une fois au chômage, les compteurs sont remis à zéro et la durée du droit de chômage ne serait pas amputée de la période en RHT?
Alors, on va y Pascal répondre Guillet. L'une après l'autre, voilà, au niveau des questions. Premièrement, la réduction de l'heure de travail a pour but principal de maintenir l'emploi. Ça veut dire que si une personne vient être résiliée, elle n'a plus droit à la réduction de l'heure de travail durant le délai légal de congé. Si, durant ce délai légal de congé, elle a droit à son salaire à 100%. Ça, c'est clair, c'est
d'accord,
net.
Là, on peut pas cumuler donc le licenciement et RHT.
Non. Parce que, en fait, le but principal de la mesure RHT, c'est bien de maintenir l'emploi. Au moment où il y a licenciement, le but, il est plus atteint. On n'a pas maintenu l'emploi. Dès lors, l'aide qui est aussi apportée à l'employeur de pouvoir redémarrer rapidement son activité par le biais de la RHT, c'est-à-dire de remettre en œuvre des gens qui étaient sous contrat, mais il n'est plus atteint. Donc, la personne a droit à son salaire à 100% jusqu'au terme du délai légal de congé. Si au terme du délai légal de congé, une solution professionnelle n'a pas été trouvée par cette personne, elle peut s'inscrire à l'assurance chômage. Et là, les périodes de RHT ne viennent pas porter préjudice à la période de chômage. Mmh. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment des périodes d'emploi. Mmh. C'est aussi la raison pour laquelle, durant la période de RHT, les cotisations sociales sont toujours décomptées sur le 100% du salaire et non pas sur le 80% avec le salaire réduit. Parce qu'effectivement, si on prenait le 80% quand on arrive à l'assurance chômage, il y aurait l'effet d'escalier. Mmh. 80% du 80%.
Ouais.
Et là, on repart vraiment au niveau de l'assurance chômage sur le salaire de base, le salaire à 100%.
Merci de vos explications, Pascal Guillet. On va devoir s'arrêter là parce qu'on arrive au terme de cette émission. Pascal Guillet, directeur donc de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage et président de l'association des caisses cantonales latines de chômage. Et à vos côtés, enfin à distance, il y avait Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail et associée au cabinet Bianchi-Schwald à Genève. On vous remercie tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos auditrices et auditeurs. Excellente
Merci.
Journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir.